Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, en mode furtif aujourd'hui. En tout cas, beaucoup plus discret que James Bond, ni Aston Martin, ni Vodka Martini. On parle ici des agents secrets, en vrai, et de leur mission en Ukraine. Cette semaine, le journaliste Georges Malbruno l'a révélé dans le Figaro. Une cinquantaine d'agents de la DGSE, le renseignement extérieur, sont déployés sur le terrain depuis le début de l'invasion russe. Et voilà donc le sujet que je voulais que l'on creuse. Qui sont ces agents? Comment travaillent-ils? Que font-ils sur place? Pour répondre à ces questions dans ce focus, Georges Malbruno, justement, bonjour.
Bonjour.
Et Rémi Koffer, historien des renseignements, auteur récemment des espions de Cambridge aux éditions Perrin, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, Georges Malbruno, le renseignement extérieur, dit comme ça, c'est un peu vaste. Est-ce qu'on sait précisément d'où viennent ces agents, de quel service?
Ces agents sont issus de la DGSE, donc les services de renseignement extérieur, et d'un service interne qui s'appelle le service Action, qui est composé de personnes qui agissent clandestinement et qui n'existent pas, qui n'ont pas d'existence officielle, et donc dont les missions sont très vastes. Ça va de la récupération d'otages ça va au déploiement au-delà des lignes de conflit, justement pour récupérer du renseignement. Mais ce sont des gens qui agissent clandestinement, donc ils n'existent pas.
Ce sont donc des clandestins, des agents qui ont l'habitude de travailler dans l'ombre. Ils peuvent accomplir des exploits, on n'en parlera jamais. C'est bien ce genre d'espions-là dont on parle, Rémi Koffer.
Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les forces spéciales, qui sont des militaires qui agissent en uniforme de leur armée, en principe du moins, et les forces clandestines des services secrets. La DGSE a une division action qui est susceptible d'agir de manière clandestine. Maintenant, la frontière est parfois poreuse. Par exemple, en septembre 1979, le président de Centrafrique Bokassa, qui se faisait appeler empereur, a été renversé par ordre du président Giscard d'Estaing. Le service action du SDEC, qui était l'ancêtre de la DGSE, a fait l'opération, mais ils étaient déguisés avec des uniformes divers, des pièces d'uniformes divers, pour donner l'impression, si ça foirait, qu'il s'agissait de mercenaires. Donc, ils avaient une veste anglaise, un truc américain, un truc russe, un truc, etc. Et des armes pareilles, des armes israéliennes, des armes russes, des armes chinoises, etc.
C'est un peu finalement la figure de l'espion, même si on se demande aussi ce qu'ils font sur le terrain. On va en venir à leur mission. Mais je voudrais d'abord qu'on écoute ce que disait en février dernier dans On défait le monde, le journaliste et spécialiste des questions militaires, Jean Guinel.
Vous avez aussi des gens qui sont sur le terrain, en Ukraine, dans le Donbass peut-être, un marchand de fleurs qui vous informe, ou d'avoir un membre du gouvernement, ou un militaire. C'est le plus vieux métier du monde, beaucoup plus que celui dont on parle généralement. C'est l'espionnage à la papa, comme on pourrait dire, d'aller au contact, de boire un coup dans un bar. Mais aujourd'hui, dans des zones de conflit, c'est plus difficile. Si vous voulez un Français dans le Donbass, ça se repère assez vite. Il a beau être déguisé en Ukrainien local, il se fait remarquer.
Voilà, on reparle donc du déguisement au-delà de ces agents qui se sont fait passer pour des mercenaires. Jean Guinel parle là d'agents déguisés en ukrainien. Rémi Koffer, ils sont vraiment déguisés, ces agents-là, sur le terrain?
Ces clandestins agissent sous ce qu'on appelle techniquement identité fausse, c'est-à-dire qu'ils ont des faux noms, des faux passeports, etc. Ce qui les différencie de gens légaux qui opèrent sous leur vrai nom, par exemple à partir des ambassades. Donc ceux-là sont sur le terrain, et naturellement, la différence entre un soldat des forces spéciales qui se ferait prendre en uniforme de l'armée française et un clandestin de la division action de la DGSE, c'est que le clandestin, s'il se fait prendre, il ne peut pas revendiquer la Convention de Genève, il ne peut pas revendiquer qu'il est un prisonnier de guerre. Donc ça devient très compliqué. En 2009, nous avons un agent de la division action de la DGSE, Denis Annex, c'est un pseudonyme, car ils ont évidemment des pseudonymes, qui a été enlevé en Somalie. La division action, quelques années après, a essayé, à l'époque du président Hollande, a essayé de le libérer. Ça n'a pas marché. Deux membres de la division Action ont été tués, et Denis Alex aussi. Donc c'est risqué quand on se fait prendre, évidemment, dans ces conditions. On n'a pas le parapluie, si vous voulez, des gens qui opèrent à partir de l'ambassade, qui peuvent dire « Ah ben moi, je suis diplomate ». Bon, on les expulse, mais généralement rien de plus. Ou des militaires en uniforme qui, eux, peuvent dire « Voilà, je suis militaire de l'armée française, je m'appelle Pierre Dupont, voilà mon numéro matricule et c'est tout ce que je peux vous, ce que j'ai le droit de vous donner ».
Mais pour opérer sur le terrain, ces clandestins, ils font comment, Rémy Coffer ? Ils se font passer pour qui ? Ils utilisent quel type de couverture, par exemple ?
Le fin du fin, la division Action a des réservistes qui sont des gens qui ne sont pas à temps plein, travaillent pas à temps plein pour le service Action, la division Action, qui ont un métier, qui ont une occupation professionnelle, mais qui ont accepté le principe d'être éventuellement réveillés en cas de nécessité. Alors, par exemple, ça peut être le cas de Français travaillant en Ukraine dans des entreprises, et parlant évidemment l'ukrainien, et qui peuvent beaucoup plus facilement se déplacer. Les clandestins de la DGSE qui peuvent opérer en Ukraine le font évidemment en bonne intelligence, c'est le cas de le dire pour ces des services secrets, avec les Ukrainiens. C'est-à-dire que, bon, on peut compter sur une certaine aide des Ukrainiens, puisqu'on vient les aider. Donc, donc quand ils se déplacent, ils ne risquent pas, a priori, d'être arrêtés par la police ukrainienne ou les militaires ukrainiens sur le thème « qu'est-ce que tu fais là ?», etc. Mmh. Et là, il y a un moyen de prévenir les autorités ukrainiennes, de dire « non, non, celui-là, vous le laissez tranquille ».
Alors, concernant leur mission, Georges Malbruno, ces agents-là, déployés en Ukraine, ils font quoi ? Ils ont quelle mission ?
En Ukraine, les missions de cette cinquantaine d'agents qui sont, c'est pas évidemment 50 agents au même endroit ensemble et au même moment, c'est des petites unités qui vont justement clandestinement se cacher, récupérer du renseignement. Elles sont qui ont été déployées tout à fait au début de la guerre, hein, comme ça se fait dans pratiquement toutes les guerres importantes auxquelles la France a été de près ou de loin mêlée. C'est un grand pays qui a des services de renseignement puissants et dont une branche est chargée clandestinement de ramener du renseignement et de voir ce qui se passe, quoi. Et donc là, en Ukraine, dès le début de la guerre, ces agents du renseignement ont fait de la collecte de renseignements, ont fait probablement aussi peut-être de la protection de dirigeants ukrainiens, ont fait de l'instruction auprès des Ukrainiens en ce qui concerne des équipements sensibles que la France leur a livré, et puis peut-être aussi de l'exploitation du partage de renseignements satellitaires fournis par la France à l'Ukraine pour permettre justement à affronter les chars russes au moment de l'invasion et dans les mois qui ont suivi. Voilà, donc c'est une... Mais les missions du service Action sont par définition vagues parce qu'il n'y a pas de code. Hein. Ça peut aller, je vous dis, de... récupération d'otages, à des opérations clandestines et d'élimination des ennemis de la France. Et en Ukraine, ils ont agi en tant que conseillers. Ils n'ont pas été dans les combats. Ce sont pas des mercenaires ou des anciens légionnaires ukrainiens membres de la Légion française. On sait qu'il y en a une 14 environ qui avec l'accord d'autorité française, qui sont allés combattre avec leurs amis ukrainiens. L'armée russe et ses supplétifs ne sont pas des mercenaires, ne sont pas des freelances, ce sont des gens qui agissent sur ordre, qui sont bien formés, bien équipés. Évidemment, vous imaginez quand vous allez et qu'une capacité de survie en milieu hostile qui est importante. Et donc voilà, ça n'est pas très surprenant. Je vous dis, dans toutes les guerres, les Britanniques et les Américains, j'avais sorti l'information au début avril, on en a eu également probablement au plus grand nombre. SAS britannique et Delta américaine dès le commencement parce que c'est la guerre clandestine et il faut pouvoir être sur le terrain, il faut pouvoir aider aussi ceux qu'on soutient et on le fait dans un cadre clandestin parce que justement on ne veut pas être taxé de co-belligérance ou de participation à une guerre.
Mais dans les faits, Rémy Coffer, ça sert à quoi pour la France qui ne participent pas à ce conflit de recueillir toutes ces informations ?
Eh bien, ça sert notamment à préparer d'éventuelles guerres dans lesquelles nous serions contraints de participer. Les Ukrainiens sont en première ligne face aux Russes qui les ont attaqués et il y a énormément d'enseignements à tirer de cette présence. De la même manière, quand il y avait la guerre civile d'Espagne, eh bien, on avait, figurez-vous, des gens qui renseignaient sur les deux camps en présence, sur leur potentiel militaire, etc. Et qui renvoyaient ça au service de renseignement, qui s'appelait à l'époque service de renseignement à Paris.
Alors, depuis le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis ont beaucoup communiqué sur ce que le renseignement leur a permis de découvrir. Et voici ce que nous disait en mars dernier, dans un précédent épisode de Focus, l'ancienne adjoint du coordonnateur national du renseignement à la présidence de la République, Jérôme Poirot.
L'interrogatoire des prisonniers depuis des millénaires maintenant a toujours été une source de renseignement très importante parce que s'il consente à parler un peu, ce qu'ils peuvent faire sans être brutalisés. Il y a des techniques qui permettent de faire parler les gens même quand ils n'ont pas envie, sans recourir à la violence. Eh bien, évidemment, c'est l'armée ukrainienne qui interroge la plupart des prisonniers ou des déserteurs. Il y a aussi beaucoup, semble-t-il, de déserteurs parmi les soldats russes. Et donc, ça permet de collecter un tas d'informations sur comment les opérations ont été préparées, comment elles se sont déroulées, quel est le moral, évidemment, des troupes. Et il est plus que probable, il est évident que des agents américains de la CIA ou de la DIA, c'est-à-dire du renseignement militaire américain, ont bien sûr des comptes rendus de tous ces interrogatoires, mais peut-être y assistent-ils eux aussi pour se forger leur propre idée aussi de ce qui se passe et pouvoir tirer tous les enseignements qu'ils souhaitent de ce que livrent ces prisonniers.
Ça aussi, Rémi Koffer, ça peut faire partie du travail de ces agents français, éplucher les comptes rendus d'interrogatoires, participer même éventuellement aux interrogatoires des prisonniers ou des déserteurs.
S'ils possèdent la langue, oui, ils peuvent le faire. À nouveau, s'ils sont d'identité fausse, c'est-à-dire qu'on ne dira pas aux soldats russes capturés qu'on interroge, on ne dira pas « celui-là, c'est un Français ». Bien entendu, il faut donc que le Français en question puisse se fondre un peu dans une équipe qui est en train d'interroger un prisonnier. Alors, Poirot a 100 fois raison, Napoléon disait que c'était la source numéro un de renseignement, l'interrogatoire des soldats prisonniers.
Ce qu'on a un peu de peine à imaginer, c'est où peuvent être déployés ces agents. Bon, forcément, il y a des questions de sécurité, ce sont des agents secrets, le mot est important, leur localisation n'a pas vocation à être révélée, mais est-ce qu'ils peuvent être partout en Ukraine, jusqu'au front par exemple, Georges Malbruno ?
Ah, ça je ne sais pas, ma source ne m'a pas dit où j'étais déployé, mais je peux imaginer facilement que des équipes du service action sont pas loin des zones de front, ça me paraît évident parce que c'est leur job, c'est d'aller recueillir du renseignement et donc être au plus près de des combats, certainement, ça me paraît évident. Mais je n'ai pas d'informations, ma source n'est pas allée aussi loin dans la précision parce que ça peut être un peu gênant de le divulguer.
Et côté russe, Georges Malbruno, on pourrait imaginer que ces agents déployés en Ukraine puissent aussi être amenés à aller chercher des informations de l'autre côté du front ?
Probablement, vous savez, ils sont clandestins, ils ont une latitude qui est assez grande et ensuite c'est à eux d'apprécier le danger, c'est à eux d'apprécier la situation. Voilà, ils sont pas en vacances, donc et comme sont des gens bien formés, courageux, audacieux, capables de survivre en milieu hostile, bah, on peut imaginer qu'effectivement, et leur but c'est d'être au-delà des lignes ennemies, c'est ça oui, c'est la guerre secrète que se livre, mais depuis la nuit des temps, je dirais presque.
Que la collecte soit la plus large possible.
Exactement.
Et s'ils meurent sur le terrain, puisqu'ils sont clandestins, la France ne reconnaîtra jamais qu'ils y étaient pour elle.
Non, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Pour leur famille, ils existent évidemment. Mais vous aurez, comme vous avez eu d'ailleurs, je crois, il y a 5-6 mois, Florence Parly s'est recueillie sous l'Arc de Triomphe pour commémorer justement les morts du service Action, entre autres, qui sont morts discrètement, de manière complètement anonyme pour la France, que effectivement ces morts ne sont pas répertoriés puisqu'ils n'existent pas, ils n'ont pas d'identité officielle.
Et leurs familles, justement, que vous évoquiez, elles ne savent pas non plus où ils sont et qui ils sont.
Ils ne savent pas où ils sont, probablement, et ils ont une grande discrétion. Après, donc ce sont des agents secrets, donc ils ne sont pas autorisés, effectivement, à en dire beaucoup, y compris à leurs proches.
Rémy Kofer, on a parlé des Américains, on a parlé des Français, des Britanniques dans ce focus. Finalement, l'Ukraine, c'est aujourd'hui le grand nid d'espions.
Il y en a certainement beaucoup, oui. Alors, ça, c'est évident. Mais rappelez-vous que les choses ont commencé évidemment par l'espionnage russe, qui, de l'Union soviétique, il y avait une imbrication entre les services russes et ukrainiens. Et d'ailleurs, le président Zelensky, rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, a renvoyé une partie des responsables des services secrets parce qu'il les soupçonnait de travailler pour les Russes. Donc, vous avez ça. Quand les Russes ont envahi la Crimée, eh bien, ont apparu ce qu'on appelait les petits hommes verts. Alors, les petits hommes verts, c'était des Spetsnaz, c'est-à-dire les troupes spéciales russes, en l'occurrence du GRU, qui est le renseignement de l'armée russe et qui est un service dont Poutine se sert beaucoup, y compris pour les assassinats à l'extérieur, comme en Angleterre. Ça s'est déjà produit à plusieurs reprises. Donc ces petits hommes verts, théoriquement, eux aussi étaient sous identité fausse. Théoriquement, c'était des volontaires qui étaient venus soutenir les Ukrainiens pro-russes. Mais dans la pratique, évidemment, ils appartenaient au service secret russe.
Merci à vous deux, Georges Malbruno, journaliste au Figaro, Rémy Kofer, historien du renseignement, auteur des Espions de Cambridge aux éditions Perrin, de nous avoir éclairer autant que faire se peut sur ces espions présents donc en Ukraine dans cet épisode de Focus que vous pouvez noter, que vous pouvez commenter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.